goût, c'est naturel et culturel.
Acide, salé,
amer,
sucré,
tapique,
fumé,
gras,
pétillant,
umami.
Le goût n'est pas dans l'assiette, il est dans la tête.
Alors, vous remarquez une petite fumerole blanchâtre.
Carrément.
Alors, déjà, là, vous entendez un petit son qui est agréable. C'est produit évidemment par les bulles qui éclatent, qui se produit à la petite échelle de la flûte, a vraiment plein de parallèles à voir avec ce qui se produit à l'échelle même cosmique.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Saveurs Savantes, la série savoureuse et salivante qui perce les secrets du goût en 9 épisodes. Épisode 8.
Pétillant.
Et oui, ça va mousser, buller, dégazer et même carrément déborder dans cette émission entièrement consacrée à l'effervescence. Je suis accompagné tout au long de cette enquête de Christophe Lavelle, biophysicien, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il est spécialisé dans les sciences de l'alimentation et de la gastronomie et il nous racontera d'où viennent les bulles d'une boisson, quels effets elles produisent sur notre langue et quel rôle elles jouent dans la dégustation. J'ai aussi rendez-vous avec Gérard Ligier-Beller, professeur de physique à l'Université de Reims, pour une dégustation de champagne très très spéciale. Je vais aussi vous apprendre à fabriquer une melonade. Oui, une boisson mousseuse au melon, entièrement naturelle. La recette de saveur savante, un tiers de cuisine, un tiers de culture, un tiers de science. Vous ajoutez une pincée de cinéma, des morceaux de littérature, des mots et des expressions du dico. Vous secouez bien et vous obtenez un délicieux cocktail de savoir et de saveur. Je vous le sers bien frais pendant tout l'été. Il est loin de buller sur la question du pétillant. C'est notre savant, Christophe Lavelle.
Saveur savante. François-Régis Gaudry sur France Inter.
Alors le pétillant, là, ça va être une sensation qui est plutôt tactile finalement. Ce sont toutes ces micro-bulles qui vont éclater sur la langue, qui déclenchent à chaque fois un petit message tactile, mécanique, qui peut éventuellement être douloureux, même s'il est, on sait bien que si on avale goulûment une canette de soda fraîchement ouverte, il y a tellement de bulles, tellement de gaz que ça peut même faire mal à la langue et à la gorge.
Mais la sensation est davantage tactile que gustative.
Elle est tactile, oui, effectivement, parce que ça vient de la formation de ces bulles. Les gaz dissous, on les sent pas.
Et d'où viennent ces bulles?
Justement, de ces fameux gaz dissous, en fait. Qui dit bulle dit gaz. On parle d'eau gazeuse. Eh ben, c'est tout simplement de l'eau qui va circuler dans des cavités souterraines, éventuellement sous pression, justement, en profondeur. En général, c'est du dioxyde de carbone qu'on va trouver dans ces sources. Mais éventuellement aussi, on trouve du sulfure d'hydrogène, H2S, qui est ce côté odeur d'œuf pourri, hein, mais qui est dans les eaux thermales, qu'on retrouve parfois, qui sont très, très prisées pour leurs vertus digestives. Et en sortant de, donc en arrivant à la surface, hein, ces eaux bouillonnent, elles sont justement très très riches en gaz et donc en bulles qui éclatent. Il faut rapidement les mettre en bouteille pour capturer finalement ce gaz, pour maintenir le gaz à l'intérieur et faire en sorte que ce soit le consommateur qui puisse bénéficier des bulles au moment où il va ouvrir la bouteille et donc le décompresser et avec toutes les bulles qui vont sortir.
Donc il existe bien des eaux au rayon des eaux minérales au supermarché qui comportent déjà ces bulles. Quand on puise l'eau.
Tout à fait. Ce sont les eaux pétillantes naturelles qu'on va distinguer des eaux gazéifiées, où cette fois-ci on prend n'importe quelle eau plate et puis on va tout simplement injecter en la mettant sous pression artificiellement, sous pression dans une atmosphère saturée en CO2, donc dioxyde de carbone. On va finir par dissoudre dedans du dioxyde de carbone et on va la mettre en bouteille et au moment où on ouvre la bouteille, il y a une dépression qui se fait et tout à coup le dioxyde de carbone s'échappe et forme ces milliers de bulles. On peut le faire à la maison, hein, c'est ce qui, à l'époque, ce qui avait fait la popularité de l'eau de Seltz. Seltzerwasser, parce que ça vient d'un village en Allemagne qui avait popularisé cette eau riche en CO2. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on peut faire avec des cartouches de gaz qu'on peut acheter. Il y a des systèmes de recharge où on va mettre sous pression l'eau du robinet avec une cartouche de CO2 et ça va fabriquer de l'eau pétillante. C'est aussi à la mode aujourd'hui avec ce qu'on appelle les hard seltzer. Les fameux hard seltzer qui sont des boissons alcoolisées enrichies en gaz. Mm-hmm. Donc en fait on peut enrichir en gaz et bien sûr tous les sodas ne sont pas des pétillants naturels, c'est juste des boissons sucrées plus ou moins aromatisées qu'on met sous pression de CO2, qu'on enferme dans une bouteille pour que le gaz s'échappe au moment où on va ouvrir la bouteille.
Impossible de parler de pétillant sans évoquer la boisson pétillante peut-être bien la plus connue au monde, Cocorico. Je veux parler du champagne. Pourquoi le champagne a-t-il des bulles?
Il a des bulles parce que on va faire fabriquer du gaz carbonique par les levures fermentaires. En fait, toutes les levures responsables de la fermentation alcoolique, elles bouffent le sucre, en l'occurrence du raisin, et en échange, elles nous donnent de l'alcool, mais aussi du CO2, dioxyde de carbone. Alors ce CO2, on peut avoir envie de s'en débarrasser, c'est ce qu'on fait dans la plupart des vins dits tranquilles, la plupart des vinifications, ça mousse beaucoup, mais on laisse exprès le CO2 s'échapper. Et dans certains types de fermentation, les vins effectivement pétillants, mais aussi cidre ou la bière, hein, on va faire en sorte de garder ce CO2, et même pire, je dirais, pour le champagne, dans la méthode champenoise, après la première fermentation, on va souvent remettre un petit coup de sucre et fermer la bouteille pour que les levures continuent de bosser et du coup fabriquent du CO2 et nous mettent une pression monumentale dans nos bouteilles. Et après, on peut admirer le spectacle des bulles qui progressivement vont s'échapper de champagne. Ce qui fait le succès de cette boisson aussi, c'est qu'il y a quand même le ballet des bulles, que ça soit dans la coupe ou que ça soit dans la flûte, pour finir finalement par éclater à la surface du verre avec tout ce espèce de brouillard de champagne qui est à la surface du verre et qui participe à la dégustation de cette boisson.
Au départ de Paris, je file à Reims en train.
Mesdames, messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons en gare de Champagne-Ardenne TGV.
En à peine plus d'une heure, je me retrouve devant la porte de l'université de Reims, où m'attend Gérard Liget-Beller. Il est professeur de physique, et ses travaux, reconnus mondialement, portent sur les boissons à bulles. Dans ma vie de journaliste gastronomique, il y aura un avant et un après ma rencontre avec Gérard Liget-Beller. Je ne boirai plus jamais le champagne comme avant.
Bonjour.
Enchanté. Entrez.
Merci.
Bienvenue dans notre laboratoire. Entrez.
Waouh. On se doute pas de l'extérieur. une telle machinerie. Comment vous pourriez décrire cet endroit ?
J'ai eu envie en fait de créer une équipe multidisciplinaire autour de l'effervescence au sens large. Mais on est vraiment le seul labo au monde dévolu à l'étude des boissons à bulles. Donc évidemment, on a un gros focus sur les vins de champagne et les vins effervescents. Mais de fil en aiguille, on s'est intéressé à tous les effervescents, les eaux gazeuses, les sodas, les bières, et même des phénomènes d'effervescence dans l'océan. Ça aussi, il y a des parallèles assez étonnants entre ce qui peut se produire à la petite échelle d'un verre et à la très grande échelle du système Terre, par exemple.
Vous avez donné des noms à toutes ces machines, par exemple ?
Elles ont un nom. Alors ça, par exemple, là, ce qu'on a devant nous, c'est une caméra ultra rapide. On va aller regarder de très près la façon dont les bulles naissent, la façon dont elles éclatent aussi, qui va jouer un grand rôle en dégustation.
Vous avez un curieux statut de spécialiste mondial de la bulle. Vos travaux sont connus dans le monde entier. C'est un statut que vous assumez ?
Je m'étais intéressé à la bulle presque avec des yeux d'enfant. Moi, je buvais beaucoup de soda aux grandes dames de ma mère quand j'étais gamin. Et je pressentais que le sujet était complexe et intéressant d'un point de vue physico-chimique. J'ai commencé par l'effervescence des vins de champagne. Et puis le sujet étant vraiment assez vierge et fantastique au niveau scientifique, on m'a permis de construire un laboratoire où voilà, on analyse l'effervescence au sens le plus large possible. En fait, on fait une dégustation de champagne sous l'angle de la science. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis le débouchage de la bouteille jusqu'à l'éclatement des bulles dans votre verre? On va voir que toutes les étapes, en fait, sont assez inattendues. Dès qu'on commence à les regarder avec des outils un petit peu spécifiques, un peu sophistiqués, on a découvert des choses assez extraordinaires, ne serait-ce qu'au niveau du débouchage.
Je vous ai apporté un champagne que j'aime bien. Vous connaissez la maison Drapier?
Bien sûr.
Je vous ai apporté un Brut Nature. C'est une cuvée que j'aime bien.
À mon avis, elle est bien. Je pense qu'on peut l'ouvrir.
Vous me proposez quel genre de verre pour ce Drapier ?
C'est le tout nouveau verre en fait des œnologues de France. On est sur quelque chose qui est un peu intermédiaire entre une coupe et une flûte. On est sur quelque chose qui s'approche finalement beaucoup d'un verre à vin classique.
Ça picole pas trop dans le labo ?
Non, au contraire. Je pense que nous sommes le laboratoire au monde qui a le plus débouché de champagne pour qu'il termine à l'évier et pas dans notre gosier. Ouais. C'est pour la science, hein, évidemment.
On donne son champagne à la science.
Là, on a une bouteille, je dirais qu'elle est à 10-12 degrés, donc température de dégustation. On enlève le muselet.
Indispensable, le muselet, là.
Si le muselet n'était pas là, le bouchon aurait déjà sauté depuis longtemps. Oui, le muselet permet de garder le bouchon à sa place. Alors, vous remarquez une petite fumerole blanchâtre.
Carrément.
Ben, ça, c'est lié à ce qu'on appelle la décompression adiabatique. On a affaire à une bouteille qui est sous pression. Enfin, elle était sous pression, à peu près 5-6 bars. Au moment où le bouchon saute, le gaz qui est emprisonné dans le col de la bouteille passe sous la pression ambiante de 1 bar. En physique, c'est associé à une chute de la température du gaz qui va descendre nettement sous zéro. Ça va refroidir l'air ambiant. Dans l'air ambiant, vous avez de la vapeur d'eau qui va se condenser en fines gouttelettes. Et cette petite fumerole blanche que vous voyez là, c'est la vapeur d'eau présente dans l'environnement du goulot qui va se condenser en fines gouttelettes. En fait, c'est physiquement un mini nuage. Et puis là, on le voit plus, ça y est, ça s'est déjà réévaporé dans l'air.
Et sinon, il y a eu ce bruit, ce fameux plop, ouais. Très identifiable, ouais. Il est produit justement par l'évacuation voilà. Très rapide des gaz.
Vous avez du gaz carbonique sous 6 bars de pression et il fait ce plop très caractéristique.
À quelle vitesse ?
Si je l'avais laissé sauter de lui-même, c'est plutôt modeste sa vitesse, c'est 50-60 km/h. Par contre, les gaz s'échappent eux beaucoup plus rapidement. On est sur des vitesses entre 1500 et 1800 km/h.
C'est énorme.
C'est énorme. C'est ça qui pousse le bouchon. Alors, c'est pas encore assez fort pour faire des vitesses très très impressionnantes pour le bouchon, mais par contre, les gaz se déplacent très 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 rapidement. Ouais.
Alors là, invisible à l'œil nu, évidemment, faut.
Absolument. Il faut des caméras ultra rapides. Ce qu'on a fait, évidemment, on a filmé ces scènes-là avec des caméras ultra rapides. Ça donne des images absolument extraordinaires. Hélas, ça n'est pas visible à l'œil nu. Alors, je vais vous faire un service comme il faut faire. Ok ? Je vais en fait pencher le verre un peu comme si je me servais une bière. Alors on y va, là, vous entendez là un petit son qui est agréable. Voilà, c'est produit évidemment par les bulles qui éclatent. Pourquoi j'ai penché le verre au moment du service ? Pour une raison toute simple. Le champagne contient du gaz carbonique. Le champagne dans sa bouteille a subi une seconde fermentation pour emprisonner du gaz carbonique. Et c'est ce gaz carbonique qui va créer les bulles ensuite au moment de la dégustation. Quand je sers le champagne, je crée une agitation du liquide et je vais perdre du gaz carbonique en assez grande quantité. C'est pour ça que pour limiter un petit peu la casse, un petit peu limiter les turbulences, il vaut mieux pencher le verre. On a un service qui est plus doux et on perd moins de gaz carbonique. Donc on a plus de gaz carbonique pour faire des bulles ensuite en dégustation. C'est du bon sens.
Et ça, vous, pour le montrer scientifiquement, vous avez procédé à des photographies infrarouges.
Pour le visualiser, effectivement, on a filmé en fait une scène de service dans l'infrarouge. Il se trouve que la molécule de gaz carbonique absorbe des longueurs d'onde de l'infrarouge et donc devient visible quand on la filme dans l'infrarouge et non pas quand on la filme dans le visible.
Ouais. Il est donc prouvé que lorsque le verre est penché, il y a moins d'échappement.
Enfin. Exactement, ça a été fait notamment par Clara qui a fait aussi des mesures chimiques du gaz carbonique dissous. Et on voit très bien que quand on sert le champagne dans la flûte penchée, il contient beaucoup plus de gaz dissous au moment de la dégustation.
Il y a des bulles ?
Ouais, il y a des bulles, ouais.
Ça vaut mieux ?
Il y a des bulles, c'est bon signe. Alors on va regarder ça. Là, vous pouvez voir des petites colonnes de bulles qui remontent le long du verre.
Mais c'est pas non plus le jacuzzi, quoi.
Non, c'est pas le jacuzzi. En fait, il vaut mieux pas que ce soit le jacuzzi. Quand c'est le jacuzzi, ça peut arriver, je vais vous dire pourquoi. En fait, les bulles, elles ne naissent pas ex nihilo. Si vous avez un verre qui est parfaitement lisse à l'échelle microscopique, parfaitement propre, il ne sera pas capable de créer des bulles.
C'est quoi ? C'est des micro-poussières, des aspérités qui vont servir de point d'accroche.
Exactement.
À des bulles ?
Dans la grande majorité, c'est des petites poussières qui se déposent à la surface du verre. Alors évidemment, vous ne les voyez pas, vous avez l'impression que le verre est parfaitement propre, mais localement, il contient des petites poussières, des petites anfractuosités, qui vont être capables de capter le gaz carbonique dissous et de le relarguer sous forme de bulles.
Est-ce que selon les champagnes, il y a des bulles plus ou moins fines ? On dit souvent d'un champagne de qualité qu'il a les bulles fines. Il y a des bulles grosses, des bulles fines, selon les cuvées ?
Alors, on a passé pas mal de temps à essayer de voir un petit peu comment ça fonctionnait d'un point de vue strictement, on va dire, rationnel. On a mis toutes les idées reçues de côté. Alors, on s'est rendu compte d'une chose très simple à comprendre, c'est que plus le vin est riche en gaz carbonique, plus les bulles vont grossir vite. Donc, en fait, les champagnes et les vins effervescents qui vont faire des petites bulles sont ceux qui contiennent le moins de gaz carbonique dissous.
Est-ce que la bulle permet de jouer un peu le rôle de caisse de résonance des arômes d'un champagne ?
Alors j'allais y venir, vous avez entièrement raison. Donc là, on regarde ce qui se passe. Les bulles se forment sur le verre, elles remontent, elles arrivent à la surface et puis elles éclatent. Alors elles éclatent, au moment où elles éclatent, qu'est-ce qu'elles vont libérer ? Elles vont libérer le gaz carbonique dont elles se sont chargées pendant leur parcours. Mais pas seulement, elles se sont chargées aussi d'un tout petit peu de molécules volatiles aromatiques qui vont passer dans la bulle. Donc au moment où la bulle éclate, elle libère le gaz carbonique, mais les arômes. Voilà, ça c'est ce qui se passe au-dessus d'une flûte de champagne. Vous avez un petit brouillard de micro-gouttelettes très caractéristiques. On a tous fait attention à ça en dégustant du champagne ou n'importe quelle boisson gazeuse. Hein. Un petit aérosol de gouttelettes de liquide au-dessus de la surface. Et en fait, ça fonctionne exactement comme un brumisateur de parfum. Elle vous projette ce petit filet de champagne à très très haute vitesse qui va vous donner un boost d'arôme supplémentaire. Je vais vous montrer ça maintenant, on va regarder ça à l'échelle de la bulle. Je vais vous faire éclater une bulle. Voilà, là je vous montre une vidéo haute vitesse qu'on a fait avec des collègues d'une université parisienne. Ça, c'est une bulle qui éclate.
Attendez, on est à combien d'images par seconde là ?
Là, on est à 50 000 images par seconde. Parce que évidemment, c'est un phénomène d'une extrême vélocité. Mais vous vous rendez compte que la bulle qui éclate projette 3 à 4 petites gouttelettes. Alors, vous avez l'impression qu'elles se déplacent lentement, mais en fait, elles sont très rapides. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 10 mètres par seconde. Donc, c'est tellement rapide qu'il y a une partie du volume de la gouttelette qui va physiquement s'évaporer. Et donc, ça va jouer le rôle d'exhausteur d'arôme. Sans l'imagerie haute vitesse, on n'aurait pas pu regarder le degré de finesse de ce qui est en train de se jouer sous votre nez sans que vous en ayez conscience, en fait. Alors, j'ai vraiment les arômes, là. Ok, maintenant, je vais le déguster. Alors, le premier ressenti immédiat, c'est qu'on a ce petit picotis. Alors, ce petit picotis, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas lié aux bulles qui éclatent. Ce picotis, il est lié en fait à la présence des molécules de CO2 dissous dans le liquide qui vont venir titiller vos papilles en fait. Et ça crée une petite piqûre en bouche.
C'est un bon champagne ou pas ?
Oui, il est très bon en plus. Il est très bon. Je pense qu'il a déjà vieilli un certain temps parce qu'il a vraiment des arômes déjà un petit peu complexes.
Et on est d'accord pour dire que la bulle dans un champagne est obtenue par la méthode champenoise qui est une méthode de fermentation.
Voilà, c'est une seconde fermentation en bouteille qu'on appelle la prise de mousse.
Il faudrait laisser reposer ce verre combien de temps pour qu'il se débarrasse totalement de son
gaz carbonique. Qu'il fasse plus de bulles. Alors ça aussi, c'est évidemment des choses qu'on a investiguées. C'est plusieurs dizaines de minutes.
Ah, quand même.
Ouais, vous avez un potentiel d'effervescence dans un champagne standard qui est important. Une heure et demie, certains même 2 heures.
Le coup de la cuillère pour conserver les bulles dans le goulot de la bouteille de champagne.
Vous avez une autre idée reçue que moi aussi j'avais en arrivant ici, que vous ayez une petite cuillère et qu'elle soit en argent ou en cuivre ou en n'importe quoi, c'est comme si vous n'aviez rien du tout. Ça ne conserve pas mieux le gaz carbonique que le goulot à l'air libre.
Aucune différence.
Alors pourquoi peut-être les gens ont fini par y croire ? Parce que quand vous remettez votre bouteille au frigo avec ou sans cuillère, vous êtes dans un milieu froid et puis au repos. Et en fait, le gaz carbonique qui est contenu dans votre bouteille de champagne, et ben à partir du moment où il n'y a pas de bulle dans la bouteille, la diffusion est très lente. Donc si vous revenez le lendemain et que vous redégustez votre champagne, il y a toutes les chances qu'il soit encore effervescent parce que finalement, le gaz carbonique s'échappe très lentement à partir du moment où il n'y a pas de formation de bulle.
Et dites-moi, quelle serait la meilleure méthode pour conserver, à part la température du frigo, pour conserver les bulles d'un champagne, c'est de le reboucher ?
Voilà, c'est ce qu'on appelle le bouchon stopper. On met un bouchon hermétique qui va confiner le gaz ici, donc qui va remonter sous pression. Et c'est ce qui conserve au mieux l'effervescence. Regardez, voilà, ça c'est le parallèle qui existe entre ce qui se passe à la surface d'une flûte de champagne et ce qui se passe à la surface de l'océan. Quand les vagues déferlent, elles emprisonnent des milliers et de milliers de microbulles qui, quand elles remontent à la surface, éclatent. Elles projettent des petites gouttelettes de liquide au-dessus de la surface. Ces petites gouttelettes de liquide sont prises par les vents. L'eau va s'évaporer. Il va rester les sels minéraux qui jouent un rôle, en fait, très important dans le climat. Donc voilà, les embruns en océanographie jouent un rôle essentiel. Donc on a travaillé aussi avec des océanographes. Et on a adoré faire ce parallèle incroyable entre ce qui se passe à la micro-échelle de votre flûte de champagne et ce qui se passe à l'échelle du globe, en fait. C'est les lois de la mécanique des fluides qui fonctionnent dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. C'est beau, hein ?
Saveur savante.
Pétillant.
Pétillant. Sur France Inter.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prenez de ma part, mes amis nécrophages. Thank you.
faux, les farfadets, c'est Fred, mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer, deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, il va marquer. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubrique vestale et géris insatiables chevauchant des valkyries. Infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie.
Jacques Higin chantait Champagne en 1979, une chanson qu'on boit toujours cul sec.
Saveur savante sur France Inter.
On va passer une bonne soirée. Il paraît que c'est du très bon champagne. Vous croyez vraiment que vous pourrez la déboucher?
Oh oui. Vous savez, j'en ai déjà débouché une ou deux dans ma vie. C'est simplement une affaire de pression et de contre-pression. Cherchez les coupes.
Très bien.
Vite, vite, les coupes.
Quand Marilyn Monroe vient à la rescousse d'un doigt coincé dans le goulot d'une bouteille de champagne.
Il m'a l'air coincé.
C'est idiot, allez-y, tirez fort.
Ça m'était jamais arrivé. C'est le vide, probablement. La suction des bulles de champagne crée forcément un vide et...
Attendez, voyons si j'y arrive. Je vais essayer de la tourner.
Attention, on vient de m'opérer de l'appendicite.
Sept ans de réflexion, la comédie américaine de Billy Wilder, 1955. Dès qu'il s'agit de champagne, la pétillante romancière Amélie Nothomb a les papilles en extase et le verbe savoureux. Le champagne, elle l'aime et son effervescence traverse toute son œuvre. Dans le 23e roman d'Amélie Nothomb, Petroni, en 2014, la narratrice, buveuse de champagne, voudrait trouver une compagne ou convigne de boisson afin de goûter à l'ivresse partagée. Dans les premières pages, elle raconte la griserie pétillante propre au vin des rois. C'est un texte interprété par Lou Lefebvre.
J'ai jeûné, et j'ai rompu le jeûne avec un veuve Cliquot. L'idée était de commencer par un bon champagne. La veuve ne constituait pas un mauvais choix. Pourquoi du champagne? Parce que son ivresse ne ressemble à nul autre. Chaque alcool possède une force de frappe particulière. Le champagne est l'un des seuls à ne pas susciter de métaphores grossières. Il élève l'âme vers ce que dut être la condition de gentilhomme, à l'époque où ce beau mot avait du sens. Il rend gracieux, à la fois léger et profond, désintéressé. Il exalte l'amour et confère de l'élégance à la perte de celui-ci. Pour ces motifs, j'avais pensé qu'on pouvait tirer de cet élixir un parti encore meilleur. Dès la première gorgée, j'ai su que j'avais raison. Jamais le champagne n'avait été à ce point exquis. Les 36 heures de jeûne avaient affûté mes papilles gustatives qui décelaient les moindres saveurs de l'alliage et tressaillaient d'une volupté neuve. D'abord virtuose, bientôt brillante, enfin transie. J'ai continué courageusement à boire et à mesure que je vidais la bouteille, j'ai senti que l'expérience changeait de nature. Ce que j'atteignais méritait moins le nom d'ivresse que ce que l'on appelle dans la pompe scientifique d'aujourd'hui un état augmenté de conscience. J'ai commencé à avoir des visions. Il était 18h30, l'obscurité s'installait autour de moi. J'ai regardé vers le lieu le plus noir et j'ai vu et entendu des bijoux. Leurs éclats multiples bruissaient de pierres précieuses, d'or et d'argent. Une reptation serpentine les animait. Ils n'appelaient pas les coups, les poignets et les doigts qu'ils auraient dû orner. Ils se suffisaient à eux-mêmes et proclamaient l'absolu de leur luxe. Le moment le plus sidérant fut celui où ma main éprouva pour de bon le poids d'une gemme au creux de la paume. J'ai poussé un cri qui a anéanti l'hallucination. J'ai bu une nouvelle flûte et j'ai compris que le breuvage provoquait des visions qui lui étaient apparentées. L'or de sa robe avait coulé en bracelets, les bulles en diamants. Au froid de l'argent répondait le glacé de la gorgée. L'étape suivante a été la pensée. pour autant que l'on puisse qualifier de tel le flux qui s'est emparé de mon esprit. Aux antipodes des ruminations qui peuvent l'engluer, il s'est mis à virevolter, à pétiller, à fulminer des choses légères.
Amélie Nothon, Pétronille, 2014.
Christophe Lavelle, je rappelle que vous êtes chercheur, vous étudiez la gastronomie sous le prisme des sciences. Quel est le rapport entre les bulles et la mousse? La mousse d'une bière, par exemple, elle tient beaucoup mieux que celle du champagne.
Pour qu'il y ait de la mousse, il faut qu'il y ait des bulles. Par contre, toutes les bulles ne sont pas stables. Donc effectivement, dans le champagne, ce qui se passe, c'est que quand elles arrivent en surface, elles éclatent parce qu'il n'y a pas assez de tensioactif. Dans la bière, il y a beaucoup de protéines et puis aussi de l'isohumulone, qui est une molécule qui vient du houblon, justement, qui ont un rôle de tensioactif qui fait que quand la bulle arrive en surface, elle est entourée d'un manteau protecteur qui fait que les bulles peuvent se tasser les unes contre les autres et fabriquer cette merveilleuse mousse presque crémeuse. Il y en a même des amateurs qui boivent des verres entiers de mousse, en Tchéquie notamment. On a ce qu'on appelle le mliko, qui est un verre de bière servi avec que de la mousse. Et qui, mliko, ça vient de lait, parce que ça ressemble à du lait. Et ils aiment justement ce côté onctueux de la mousse de bière.
Le côté chantilly de bière.
Exactement. Et donc il y a ce côté assez paradoxal, qui est qu'on peut avoir de la bulle avec à la fois un côté crémeux, onctueux, mais quand même avec le petit côté pétillant à côté.
Il existe aussi des boissons naturellement fermentées, mais qui ne contiennent pas d'alcool ou qui en contiennent très peu. De quoi s'agit-il ?
On parle beaucoup de deux boissons qui sont très à la mode, comme le kombucha ou le kéfir, qui sont des fermentations à la fois lactiques, donc avec des bactéries lactiques, et alcooliques, avec des levures. Mais finalement, il y a très peu de levures, donc ce sont des boissons qui sont considérées comme non alcoolisées, parce qu'elles sont à moins de 1% d'alcool. Ceci étant, par contre, les bactéries lactiques, elles produisent aussi du CO2, et on a donc des boissons pétillantes, comme des sodas, mais naturellement pétillantes, puisque c'est la fermentation qui est responsable de cette prise de gaz.
Alors là, je vais vous verser une boisson. Alors là, juste au son, est-ce qu'il y a un bruit qui vous donne une indication ?
Oui, c'est une boisson gazeuse.
Oui, parce qu'on entend le bruit des bulles.
Et aussi, je sais que c'est pétillant, parce qu'on entendait les petites bruits des petites billes.
Des petites ?
Des bulles, pardon. Ça fait des bruits très aigus qui font... Ça fait... Ça sent un peu le citron et le sucre. On dirait un peu une espèce de soda bio.
Est-ce que vous retrouvez l'effet des bulles?
Ça pétille dans la bouche, c'est vrai. On sent les bulles qui éclatent ou quelque chose comme ça.
Elles piquent la langue un peu. Au début, on sent les bulles qui piquent la langue et ensuite, on a le goût acide du citron.
Ça picote la gorge, ouais, un petit peu. Moi, j'aime beaucoup les boissons pétillantes.
D'où elles viennent, ces bulles, dans cette boisson?
De l'eau pétillante.
Vous pensez qu'on a mis de l'eau pétillante?
On a mis du gaz.
C'est du kombucha. C'est une boisson naturellement fermentée. C'est une boisson qui a fermenté et du coup, la fermentation, en fait, elle a... fait naître ces petites bulles. C'est pas du gaz qu'on a ajouté dans la boisson.
Ah mais oui, je connais cette boisson.
Christophe Lavelle, parmi vos nombreux objets de recherche, il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur, sur lesquels vous menez des expériences très poussées, c'est...
Le kéfir.
Le kéfir.
Kéfir, oui.
Définition.
Définition du kéfir, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas encore de définition entre guillemets officielle, légale, on est en train d'y travailler justement, dans le sens que c'est une boisson historiquement qui était connue à travers le lait. Donc on parle du kéfir de lait, qui est une boisson originaire du Caucase, qui est issue de la fermentation, une fermentation lactique, et à la fois enfin levure et bactéries de lait. Et qui a la particularité de se présenter sous forme de grains. C'est-à-dire que si on veut faire du kéfir, de lait, il faut que quelqu'un nous donne des grains.
Un peu comme des cailloux.
Comme des cailloux, comme ça ressemble un peu à de la semoule. Et aujourd'hui, on a deux types de kéfir. On a toujours le kéfir de lait, qui est très consommé dans le Caucase, toujours. Et puis ce fameux kéfir de fruits, qui va aussi correspondre à une tendance probiotique, aliment vegan en même temps, parce que pour le coup, il n'y a plus de lait. Et qui se présente de la même manière. Ce sont aussi des grains qui Alors, on a justement fait partie des hypothèses qu'on teste au labo, mais de savoir si ces grains ne seraient des descendants de leurs ancêtres kéfir de lait ou s'ils sont apparus de manière indépendante, ça reste une question ouverte. En tout cas, ce sont des grains un peu plus translucides que ceux du kéfir de lait, mais c'est des gros grains. Et à l'intérieur de ces grains, on trouve des dizaines d'espèces de levures, de bactéries, des bactéries lactiques, beaucoup, mais pas que. Et ces grains, quand on va les mettre dans un milieu sucré, ben, à partir du moment où il y a une présence de levures et de bactéries, le sucre va être consommé et va être transformé en alcool, en CO2 et tout un tas d'autres composés qui vont donner le goût à la boisson. Alors, la recette traditionnelle du kéfir de fruits, telle qu'on la trouve un peu partout, c'est on ensemence avec un peu de sucre, quelques fruits secs, en général c'est de la figue, et puis quelques fruits frais, en général c'est du citron. Et on laisse fermenter 48 heures, et au bout de 48 heures, on filtre pour récupérer les grains. Comme ça, on peut recommencer une fermentation. On peut même donner des grains autour de soi parce qu'en fait, les grains se multiplient. C'est ça la magie de la boisson. Si j'ai 20 grammes de grains au bout de ma fermentation, j'en ai 30 grammes ou 40. Et donc, c'est je peux propager ce ferment comme si je donnais un levain. Hein, c'est le même principe. Hein. Donc la recette, je prends un litre d'eau. Je mets par exemple 20 grammes de grains, 20 ou 40 grammes de sucre, ça dépend de mon goût, une figue séchée et puis 2-3 rondelles de citron et j'attends 48 heures à température ambiante dans ma cuisine. Au bout de 48 heures, je verrai que ça va devenir trouble, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une turbidité, donc c'est-à-dire que les micro-organismes qui se sont développés, mais normalement des bons micro-organismes, hein, c'est une fermentation lactique, et je vais filtrer pour virer le citron qui a plus aucun goût parce que les bactéries ont tout mangé, la figue aussi, on peut la goûter, hein, c'est intéressant, il y a plus de sucre, plus rien. Et on récupère les grains et puis la boisson. Alors la boisson, on la met en bouteille, on peut justement la laisser exprès dans une bouteille fermée parce que comme il y a des bactéries et levures en suspension, elles vont continuer à manger ce qui reste un peu de sucre et donc elles vont produire du gaz. Et c'est comme ça qu'on obtient une espèce de limonade citronnée naturellement gazeuse grâce à la fermentation. Et puis de l'autre côté, on a les grains qu'on peut réutiliser, on peut filer ça à des copains pour qu'ils fassent aussi du kéfir et c'est ça se propage, on peut faire ça à vie.
J'ai dans la main une bouteille qui porte le nom de Symbiose Kéfir. Symbiose, c'est le nom de la maison qui produit ce kéfir de façon biologique. Mais il y a également le macaron du Muséum d'Histoire Naturelle pour lequel vous travaillez sur cette étiquette.
Tout à fait, parce que c'est issu du fruit d'un partenariat donc entre Symbiose, à qui on s'est associé pour produire ce kéfir qu'on a analysé d'un point de vue microbiologique, c'est-à-dire qu'on est capable de dire exactement toutes les espèces qui sont présentes dans ces grains, espèces qu'on isole au fur et à mesure, une par une, pour être capable aussi de connaître leur rôle sur la boisson et pourquoi pas leur rôle sur la santé. Et en même temps, il y a un enjeu de santé publique puisqu'on a affaire à ce qui peut ressembler à un soda, parce que c'est une boisson pétillante, acidulée, mais qui est 10 fois moins sucrée.
C'est donc le résultat d'une collaboration entre la recherche et une petite start-up parisienne.
Voilà,
je me permets de goûter ?
Bien sûr. Attention, ça va pétiller. Voilà.
Ok.
Ah oui. Le studio est repeint.
C'était donc la mauvaise surprise.
Mais ça, c'est normal, parce qu'ils sont sortis du frigo il y a 2 heures, et ça prouve que nous avons un aliment vivant.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Donc un aliment vivant, très belle mousse.
Ah, ça mousse.
Ah, ça mousse.
Et c'est délicieux.
Et alors après, c'est celui que vous goûtez, c'est citron fixe, c'est le traditionnel. On en a fait citron vert, on a fait gingembre. Après, on fait ce qu'on veut. Le tout, c'est de faire une fermentation et qu'on parfume à ce qu'on veut.
Christophe Lavelle, on n'est pas obligé d'avoir des grains de kéfir comme ceux que j'ai à la main ou un agent de fermentation pour faire une boisson naturellement fermentée, une espèce de soda naturel.
Non, alors après on peut reposer sur les ferments spontanément présents dans l'environnement. C'est ce qui se passe dès qu'on fait des lactofermentations, que ce soit pour faire une choucroute ou que ce soit pour faire une boisson, ou d'ailleurs une fermentation alcoolique aussi. C'est que dans notre environnement, il y a des levures et des bactéries qui n'ont qu'une envie, c'est de se nourrir de ce qu'on leur donne. Ça fait des fermentations spontanées. Après, c'est ce qui fait la spécificité justement du kéfir et kombucha, ce sont deux systèmes fermentaires dans lesquels on apporte un ferment. C'est ça un peu la magie de la fermentation, c'est qu'elle peut être totalement spontanée, où on peut la faciliter en lui apportant un substrat sur lequel on aura déjà stabilisé une collection de ferments.
Nul besoin de ferment pour fabriquer à la maison une boisson naturellement fermentée. Vous allez voir qu'il suffit parfois juste d'eau, de sucre et d'un fruit pour obtenir un délicieux soda vitaminé. La créatrice Linda Louis est une grande spécialiste de ces breuvages mousseux. Je lui rends visite chez elle, dans le Berry, pour préparer ensemble une recette estivale autour du melon.
En fait, je suis friande de melon, j'adore ça, j'en consomme tout l'été. Et puis, je me suis surprise à jeter régulièrement donc, les pots ainsi que les graines dans le seau à compost. Et en réfléchissant bien, j'ai supposé qu'il y avait peut-être plein de petites levures indigènes, sauvages, qui fourmillaient sur cette peau de melon. J'ai voulu adapter en fait la recette du tepache, qui est une boisson fermentée mexicaine à base de peau d'ananas, en supposant que le phénomène fonctionnerait également avec la peau de melon. Dans la fermentation, soit on ajoute un ferment, donc de la levure de boulanger, du levain, de la levure de bière, des grains de kéfir ou un disque de kombucha. Ou alors on fait confiance en la nature et on laisse les bactéries, les petites levures arriver naturellement. Et c'est ce qui s'est passé avec cette melonade.
C'est parti pour la melonade ?
C'est parti. Alors avant toute chose, il faut choisir donc un melon bio. Parce qu'en fait, les melons qui sont traités en conventionnel contiennent des fongicides. Et ce qu'on veut, c'est garder justement ces petites levures qui sont des champignons. Donc on ne veut surtout pas en fait avoir un fruit qui ne contiendrait pas de levures. Alors il en contient, mais pas autant. Donc autant avoir toutes ses chances de son côté.
Là, vous avez un melon biologique.
J'ai un melon bio, bien mûr. Alors on peut laver à l'eau tempérée, donc pas plus de 30 degrés, donc ça va être de l'eau tiède. Voilà. Donc en fait on utilise les déchets d'un melon pour réaliser à peu près un litre de pétillant. Autrement dit, donc la peau d'un melon et les graines contenues à l'intérieur d'un melon pour pouvoir ensemencer à peu près un litre d'eau. Donc je coupe le melon. Et là je vais pouvoir creuser et retirer donc les graines qui vont nous être utiles. Je trouvais ça tellement dommage de jeter ces graines, en fait, qui sont vraiment riches en goût. Donc là, j'ai creusé mon melon. J'ai retiré les graines. Je retire la peau. Ensuite, on va couper en morceaux la peau du melon. Je la mets dans le bocal.
Donc la peau du melon.
Hop. C'est un bocal d'un litre et demi, un bocal en verre, bouchon mécanique, avec un caoutchouc orange. Voilà ce qu'on peut trouver... aussi bien dans les brocantes qu'au supermarché. Là ensuite, je verse mes graines.
Et s'il y a un peu de pulpe autour, tant mieux.
Ah, au contraire, justement. Et là, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va rajouter du sucre. Il faut compter à peu près entre 100 et 150 grammes de sucre. Mmh. Alors le sucre, il est essentiel en fait pour générer la fermentation. Puisque en fait, la petite levure, Saccharomyces cerevisiae, Saccharum saccharose, le sucre, Mycèse champignon, ce sont tout simplement des petites bestioles qui adorent manger le sucre. Ce sont des champignons consommateurs de sucre.
Donc les levures qui sont présentes naturellement sur le fruit, on va les nourrir avec du sucre. Du sucre, il a l'air tout à fait blanc celui-là.
Je prends du sucre blanc de canne, je ne prends pas du sucre raffiné, ça c'est sûr. Moi ce que j'aime bien c'est qu'il contient encore pas mal de minéraux. Et puis il a quand même une petite saveur de caramel qui est quand même intéressante. Donc là, moi je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude de le faire assez régulièrement. Plus on mettra du sucre, plus ça va pétiller. Donc là, c'est pour ça que l'objectif aussi, c'est de faire une limonade légère et de mettre très peu de sucre. En tous les cas, ça va fermenter.
Et c'est quel type de fermentation qui entre en action à l'intérieur du bocal ?
On est sur une fermentation alcoolique. Et après, il y aura aussi une fermentation lactique. Puisque le bocal étant fermé, on sera dans un environnement anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et c'est là que donc, les bactéries lactiques arrivent pour apporter de l'acidité. C'est le même principe que la fermentation avec de la choucroute ou avec des olives, etc.
Donc, ce qu'on appelle la lactofermentation.
C'est ça, c'est la lactofermentation.
Mais alors Linda Louis, vous allez me créer une boisson alcoolisée qui va être interdite aux enfants ?
Ah, honnêtement, c'est comme le kéfir ou le kombucha. Moi, avec 100 grammes sur un litre et demi, on va obtenir une petite boisson, allez, on va dire à 0,5, 1 degré d'alcool. Si vous en buvez un verre, c'est léger. Souvent, on me demande si les femmes enceintes peuvent en consommer. Bon, elles en consomment et tout va bien. Donc là, on a mis notre peau de melon, nos graines, notre sucre. Et ce qui nous manque, évidemment, c'est l'eau. L'idée, c'est de prendre de l'eau filtrée, pas chlorée, parce que le chlore peut altérer, on va dire, le fonctionnement de la fermentation. Ou alors, vous versez de l'eau dans une casserole, vous la laissez reposer toute une journée, et puis donc, le chlore s'évaporera.
Donc, on évite l'eau du robinet ?
Là, c'est l'eau du robinet, mais j'ai un filtre dessus, donc je peux l'utiliser.
Et on peut aussi s'orienter vers une eau de source ?
Ah oui, tout à fait. Eau de source, eau minérale, peu importe. Et voilà. Je remplis le bocal, ensuite je vais touiller, mélanger. Et pour avoir vraiment les parfums du melon, c'est un peu d'écraser les graines. Et vous allez voir là que la chair qui enveloppe les graines un petit peu remonte à la surface. Et l'idée c'est de pouvoir vraiment avoir la saveur du melon. C'est pour ça qu'il faut prendre un melon qui soit très très mûr.
Donc là, ferme le bocal. Et on va laisser fermenter. Il faut faire confiance à vos capacités d'observation. C'est-à-dire qu'en pleine canicule, vous allez pouvoir laisser le bocal au soleil pendant 24 heures. Vous allez voir qu'au bout de 24 heures, le mélange va commencer à pétiller à la surface. Si on est dans une saison un peu plus froide, ou alors si on arrive sur le mois de septembre, qu'il y a encore des melons, mais qu'on a un temps qui est un peu plus frais, ça peut mettre 2-3 jours. Mais ça part assez vite. En fait, on ne se rend pas compte à quel point il peut y avoir des millions de levures sauvages qui font un travail absolument incroyable, en ne serait-ce que 24-48 heures.
Mais idéalement, si on a, on choisirait quelle température, évidemment, on évite le frigo, c'est ça ?
Alors surtout pas le frigo, puisqu'en fait les levures se plaisent spécifiquement à une température entre 20 et 30 degrés. Voilà.
Donc on peut laisser ça dans la cuisine ?
On peut laisser ça dans la cuisine, mais si vous êtes pressé, vous pouvez mettre le bocal au soleil sur le rebord de fenêtre, même si vous êtes en appartement, ça partira, ça permettra d'avoir une fermentation beaucoup plus rapide. Alors on n'a pas fini la recette, c'est-à-dire que là, on a laissé fermenter pendant 24, 48, 36 heures. Une fois qu'on voit que ça pétille bien, on filtre et on transvase dans une bouteille. Et on laisse à nouveau refermenter, donc à température ambiante, pendant encore un jour, deux jours, trois jours. Et c'est à partir de ce moment-là que là, vraiment la pression de gaz carbonique va se faire. Parce que tant qu'on est dans la phase de fermentation 1 avec la peau et les graines de melon, on est encore dans une fermentation primaire. À partir du moment où on met en bouteille, une fois qu'on a filtré, on est dans la fermentation secondaire et c'est là que tous les arômes complexes vont pouvoir se former, que l'acidité et que les bactéries lactiques vont arriver.
Est-ce qu'il y a un risque d'explosion si on oublie le bocal quelque part ?
Oui. Alors, le bocal, non. Par contre, la bouteille, oui. C'est pour ça que je conseille vraiment d'utiliser des bouteilles de jus de fruits en verre avec un bouchon en métal. Là, on a une melonade qui a fermenté pendant deux jours et qui a une deuxième fermentation en bouteille après filtration, donc juste de 24 heures. Ça pétille un tout petit peu, mais...
Ah, ouais. Ah là, on commence à avoir... Alors, je goûte. On commence à avoir un peu d'effervescence. Déjà, c'est bon. C'est même très bon. Parce qu'il y a vraiment ce goût de melon. Et là, l'effervescence, c'est plus du perlant. C'est le début de l'effervescence.
Donc ça, c'est pas mal, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout le côté vraiment hyper effervescent. Vous savez, même sur les boissons gazeuses ou même les eaux pétillantes, certains vont préférer des grosses bulles, des fines bulles, ça dépend. Là, on est sur de la fine bulle. Ensuite, là, on va attaquer sur la deuxième boisson qui, elle, a fermenté 5 jours.
Ah.
Là, on dirait une bière blanche, et puis on se retrouve, là, c'est très beau à voir, on a vraiment les petites bulles qui sont collées contre la paroi du verre, on a de la mousse. Pour moi, c'est la manière dont j'aime vraiment le pétillant. C'est-à-dire que...
Un bon goût de melon, avec vraiment, pour le coup, la pétillance d'un cidre.
C'est ça, il y a ce petit côté fermenté qui plaît. Et là, le troisième.
Combien de jours de fermentation ?
Là, on est à 10 jours. Voilà, là, ça déborde.
Là, il y a comme une espèce de petit volcan de mousse.
C'est ça. Donc là, je pense qu'il va y avoir un tiers de boisson et deux tiers de mousse. Là, c'est pas le mauvais.
Oh, génial.
Et on voit que la boisson est plus opaque. C'est normal, ce sont les levures mortes qui donnent une certaine turbidité, en fait, à la boisson.
Donc c'est trouble. Ouais. Et j'imagine que comme c'est plus fermenté, c'est moins sucré.
Exactement. Donc on va goûter. Là, c'est très acide. Il n'y a quasiment pas de sucre, on est même sur une finale sèche.
Mais qu'est-ce que c'est bon ?
C'est désaltérant, surtout que quand il fait chaud comme ça, c'est... Et on peut s'amuser, c'est-à-dire que dans ce bocal, on peut très bien mettre donc de la peau de melon ainsi que donc des graines. Mais si on a envie de réaliser une boisson un peu plus colorée, on peut très bien ajouter des framboises, des fraises, des myrtilles.
Vive les boissons naturellement fermentées.
C'est ça, il suffit tout simplement de comprendre le fonctionnement de la fermentation pour se dire et savoir que les levures sont partout et qu'elles nous accompagnent et qu'elles peuvent nous permettre de réaliser des boissons pétillantes, vraiment savoureuses.
Tour de magie. Merci Linda Louis.
Je vous remercie aussi.
Qu'est-ce que la langue a à nous dire sur le pétillant ? Pour ce qui est de la langue de notre bouche, on est plutôt au clair sur les effets tactiles et gustatifs qui sont en jeu. Mais la langue du dictionnaire, elle, a peut-être d'autres choses à nous apprendre. On n'est pas au bout de nos surprises avec notre linguiste, Aurore Vincenti.
Saveur savante, pétillant, sur France Inter.
Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. L'adjectif pétillant vient du mot « paix », qui, comme chacun sait, est un gaz intestinal qui sort avec bruit. Le paix a été très généreux en français, puisqu'il a produit pas mal de dérivés qui vont de pétard à pétoche, en passant par pétaudière et pétillant. Deux éléments à retenir dans l'évolution vers le pétillant, le gaz d'une part et le bruit d'autre part. Alors on a aussi le mot gazeux, mais on perd cet univers sonore. Gazeux, c'est le terme chimique qui va droit au but, mais qui est moins évocateur, peut-être moins poétique aussi. J'en reviens à pétillant, le gaz et le bruit. Et quand on se fie à son emploi le plus concret, le mot sert à décrire des liquides qui dégagent des bulles, par exemple, eau pétillante, vin pétillant. On le dit de cette façon depuis le XVe siècle. Le pétillement est forcément plus léger que le paix dans la mesure où la fin du mot, y est ce qu'on appelle un diminutif. La sonorité du mot elle-même est sensorielle, à mon sens. Il y a l'évocation de la sensation tactile des bulles et ce bruit léger qui vient doucement froisser l'oreille. Entendez la fin du mot qui dure un peu, se prolonge subtilement, ça pétille. C'est pour cela que le mot est particulièrement imagé et donc qu'on l'emploie au figuré pour désigner des petits éclats de bruit ou de lumière. Je pense à l'image des yeux qui pétillent, par exemple. Donc c'est fou comme on passe d'une origine plutôt pouette-pouette, pas discrète du paix, à ce dérivé pétillant qui est presque prout-prout, chic, pompette, raffiné. Tout ça parce que la bulle est plus fine et le bruit plus léger. Et c'est une première conclusion qu'on peut tirer. Et qu'on s'entende bien, ça ne s'applique pas à tous les domaines de la vie, mais dans le cas de la bulle, c'est la taille qui compte. Et on va dérouler ensemble les termes qui font plop ou psh en français et en cuisine. Si on attaque par la bulle la plus fine, éphémère, légère, on a le terme perlant. Vous entendez le mot perle, qui vient qualifier un vin qui forme des petites perles dans le verre quand on l'y verse et qui n'est pourtant pas pétillant en bouche. Donc perlant, joli, délicat, à ne pas confondre avec la perlouse en argot qui est une grosse perle et un gros paix. On reste quand même toujours dans ce registre. Après le perlant, on a le pétillant, dont on sent bien les fines bulles en bouche, et j'ouvre une parenthèse sur une création verbale des sommeliers et des cavistes, le pétillant naturel, abrégé en pet-nat, qui n'est pas encore dans le dictionnaire. Donc perlant, pétillant. Ensuite, on peut évoquer le mousseux, qui est une grande catégorie pour caractériser le vin. Donc si on se fie au mot, c'est ce qui fait de la mousse. Cette mousse issue du gaz obtenu lors de la fermentation. Sauf que le mot mousseux a développé un aspect péjoratif dans le langage courant, pas forcément chez les spécialistes en revanche. Quand on entend « c'est du mousseux », on pense « mauvais champagne ». Et là, ça n'a rien à voir avec la qualité ou la taille de la bulle. Certains mots prennent un mauvais tournant, et c'est le cas de mousseux. Prenez le mot crémant, qui est devenu une appellation, et qui n'a pas la même couleur péjorative. Il renvoie à une mousse légère comme une crème, crémant. Alors, pour remplacer mousseux, on emploie souvent le mot effervescent, qui là, d'un strict point de vue étymologique, n'a rien à voir avec l'usage qu'on en fait. L'effervescence, en latin, c'est le bouillonnement d'un liquide, de la très grosse bulle, sous l'effet de la chaleur. C'est pour ça que quand on parle d'une effervescence au figuré, on évoque une agitation soudaine et ardente. On serait plus proche en français de l'ébullition, du bouillon, de la bouillabaisse, de la tambouille. Là, on a une taille et une origine de la bulle qui est différente. Une source de chaleur extérieure et de la grosse bulle. Et pourtant, cette chaleur, cette ardeur qu'on entend dans la ferveur de l'effervescence, elle a disparu dans le langage courant. Et on évoque dans l'effervescence un pétillement plutôt léger, celui de la catégorie des vins effervescents, mais aussi des comprimés qui se dissolvent dans l'eau en faisant des petites bulles. Donc avec l'effervescence, on a la démonstration que la grosse bulle d'hier est la petite bulle d'aujourd'hui. Et je trouve que ça donne de l'espoir à ceux qui pensent encore qu'il n'y a que la taille qui compte.
Si on devait traduire en musique l'euphorie pétillante d'un bon vin mousseux, on pourrait aller chercher quelque part vers le swing élégant du songwriter californien Nick Waterhouse. Voici Tout Elle, extrait de son nouvel album Promenade Blue.
Are you lost and lonely in no home time? Did you arrive just a waiting line? Are you left thinking that there's no fear there? Well, the people care till they just don't care.
Well, well, well.
My voice and I think I keep it. Did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking? Just like you got some notion. Do you see a mirror where I see?
Christophe Lavelle, je crois qu'il vous est arrivé une mésaventure pétillante au restaurant, racontez-nous.
Alors, ça montre effectivement ce qui se passe quand on dissout des gaz et qu'on voulait pas le faire. Il y a quelque chose qui est très populaire depuis une vingtaine d'années, c'est le siphon, qu'on utilise beaucoup en cuisine, parce que c'est vrai que c'est merveilleux pour faire mousser. Alors le siphon, c'est une bouteille sous pression, et en général, on a des cartouches d'azote, protoxyde d'azote. Sauf qu'effectivement, un jour au restaurant, dans un restaurant plutôt chic, on m'a servi une chantilly salée, hein, c'était sur un plat salé, puis je la goûte et à piquer. Mais à piquer méchamment. Un peu comme quand on a une crème périmée qui a fermenté, justement. Évidemment, quelques secondes, j'ai eu un réflexe un peu de rejet. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Enfin, c'est comme pas dans ce type d'établissement qu'on sert de la crème fouettée périmée. Et j'ai réalisé, je me suis dit, ayant fait ce genre d'expérience, j'ai dit, ok, il a dû le faire au siphon et il a dû se tromper de cartouches. Parce qu'il existe aussi, justement, pour faire de l'eau de seltz, on prend des cartouches de CO2.
Ah!
Et donc, si je mets une cartouche de CO2 dans un siphon pour faire quelque chose de pétillant, ça fait du pétillant, tout va bien. Mais si je voulais pas le faire, et là, en l'occurrence, c'était une erreur, parce qu'après, j'ai vérifié auprès du chef, je lui ai fait goûter sa chantilly, il m'a dit, ça pique. J'ai dit, oui, ça pique. Après, il m'a montré la cartouche qu'il utilisait, il s'était trompé en achetant ses cartouches, il a acheté des cartouches de CO2 et non pas de protoxyde d'azote.
C'était une chantilly pétillante.
Donc, c'était une chantilly pétillante, et comme quoi, la tête y est pour beaucoup, parce que finalement, une fois qu'on est au courant, qu'on a compris à quoi c'était dû, on la goûte de manière différente, un peu rassurée, et c'est pas forcément si désagréable.
Pour les chefs qui nous écoutent, on évite de se tromper de cartouches de gaz pour utiliser le siphon.
Normalement, les CO2 sont dorés et les N2O sont argentés.
On dit souvent que l'eau gazeuse est bonne pour la digestion. Qu'est-ce qu'en pense le scientifique ?
C'est difficile à dire. Il y a un effet salivant du fait des bulles. Après, c'est des eaux qui sont souvent riches en bicarbonate de sodium. Donc, ça n'a rien à voir avec la bulle. C'est comme ce sont des eaux qui sont riches en bicarbonate, elles ont un effet, ce qu'on appelle un pouvoir tampon. C'est-à-dire qu'elles tempèrent l'acidité, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acide carbonique et du gaz carbonique qui donne des bulles. Mais en même temps, il y a du bicarbonate de sodium qui, notamment dans les fameuses eaux type Vichy Saint-Thieur ou Vichy Célestin, ce sont les eaux qui sont les plus riches, identifiés en ce bicarbonate. Et cet effet tampon dans l'estomac a un vrai rôle de faciliter la digestion, ou en tout cas de limiter le reflux gastrique, par exemple.
En matière de pétillance, Christophe Lavelle, où vont vos préférences ?
Dans le kéfir, évidemment. Toutes ces boissons apportent une espèce de dynamique. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a de la physique là-dedans. Je reste physicien avant d'être chimiste, et de voir ce spectacle des bulles, que ce soit au fond de mon verre de kéfir ou au fond de ma flûte de champagne, et puis au fond et en surface, il y a un côté un peu dynamique, magique, et au-delà de l'effet en bouche, qui est aussi toujours surprenant. Donc oui, vraiment, je suis un amateur de bulles.
Et Christophe Lavelle n'est pas le seul à apprécier le spectacle hypnotique et festif des bulles. Si vous voulez d'ailleurs creuser la question, notre expert scientifique est l'auteur de nombreux ouvrages et le dernier s'intitule « Molécules, la science dans l'assiette » aux éditions Les Ateliers d'Argol. Mais je vous recommande aussi « Un monde de bulles, le champagne ou la science de l'effervescence », un ouvrage passionnant signé du physicien Gérard Ligier-Belair aux éditions Ellipse. Toutes les infos pratiques, les recettes et le podcast de tous les épisodes de la série sont à retrouver sur franceinter.fr à la page Saveurs Savantes. Saveurs Savantes est réalisé par Clément Baudet. Nadia Chougui et Anna Maréchal m'ont aidé à la préparer. Prise de son Stéphane Touvenin, Stéphane Beaufis et Fabrice Desmaz. Programmation musicale Djoubaka. Saveurs Savantes, c'est tous les samedis de l'été à 11h sur France Inter. Samedi prochain, épisode 9 et ce sera le dernier.
Fumez.
Demain dimanche à 11h, rediffusion d'une émission on va déguster. C'est l'été, salivez sur France Inter.